Bonsoir à tous, bienvenue. Vous écoutez toujours le studio Kalangou. Il est 18h, l'heure du journal en français présenté par Diallo Mariama Kenda. À la une de cette édition, la 21e conférence internationale sur le sida se tient à Durban, en Afrique du Sud. Fléau loin d'être éradiqué, aujourd'hui encore meurt de sida. Vous entendrez dans ce journal le président de l'association des personnes vivant avec le sida, le VIH-sida, Aliou Lawali. Le Maroc veut revenir au sein de l'Union africaine, souhait émis par le Maroc lors du 27e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé dimanche dernier à Kigali au Rwanda, analyse d'un ancien diplomate nigérien Issoufou Bachar. Opération de déguerpissement pour la construction du troisième échangeur sur le boulevard de l'Indépendance sur la traversée du marché Katako. Après la réaction des autorités de la ville de Niamey hier, vous entendrez aujourd'hui les responsables des écoles qui se trouvent aux alentours et les commerçants. Enfin, dans la partie magazine de ce soir, nous parlerons des enfants et du paludisme. La ville de Durban en Afrique du Sud accueille du 18 au 22 juillet 2016 la 21e conférence internationale sur le sida. Il y a 16 ans, de cette tribune, Nelson Mandela avait lancé un appel au monde à lutter contre l'épidémie. Aujourd'hui, pourtant, force est de constater que le fléau est loin d'être éradiqué. Exemple à Maradi, on meurt encore du sida malgré la disponibilité des médicaments rétroviraux. Selon le président de l'association des personnes vivant avec le VIH-sida, Aliou Lawali, une prise de conscience s'impose. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant à Maradi, Mohamed Maman.
Les gens qui ne veulent pas prendre leurs produits, c'est normal. C'est normal ceux qui décèdent. Sinon, si tu prends régulièrement tes produits, alors où on t'a indiqué, en tout cas rien ne va te... Rien ne va se passer quand même. Je suis là devant toi, ça fait 12 ans que je prends ce produit. Si ce n'est pas efficace, est-ce que je serai dans ce monde aujourd'hui? C'est vraiment efficace. Si aujourd'hui je ne te dis pas que je suis un séropositif, est-ce que tu peux reconnaître? Donc voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment efficace. Moi, le conseil que je lance à la population, c'est vraiment que tout un chacun connaisse son statut sérologique. Les gens n'ont qu'à venir à l'hôpital pour savoir leur statut sérologique. Ça, c'est important. Voilà. Il y a des gens, dès qu'on leur annonce leur statut sérologique, là, en tout cas, ils ne reviennent plus. Chaque fois, quand ils viennent, vraiment, on fait des trucs, des groupes de parole, tout ça là. Mais il y a des gens qui ne veulent pas écouter.
Propos recueillis par notre correspondant à Maradi, Mohamed Maman. La commune rurale de Dabaga, située dans le département de Tirosirène, région d'Agadez, a enregistré hier soir une importante pluie. Ces fortes pluies ont occasionné une crue impressionnante de la vallée de Telwa. Selon des témoins sur place, les dégâts matériels sont importants, mais pour l'instant, aucun chiffre précis n'a pu être obtenu des autorités. Le Maroc, lors du 27e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé dimanche dernier à Kigali au Rwanda, manifestait sa volonté de revenir au sein de cette organisation. Le Maroc a quitté l'organisation panafricaine sous le règne du roi Hassan II en 1975. Pour l'ancien diplomate nigérien Issoufou Bachar, l'idée du Maroc de réintégrer l'Union africaine est salutaire. Il est au micro de Asmana China.
L'Union africaine ou l'Organisation des africaines a été créée principalement pour aider les pays africains colonisés à se libérer. C'est dans ce cadre que l'Espagne, qui occupait l'île de Oro, donc une partie avant, donc on peut dire du Maroc, l'ancien Maroc, une partie de l'Afrique, a été combattue par presque tous les pays africains pour quitter l'île de Oro. Le Maroc a combattu l'Algérie et d'autres pays africains ont contribué dans cette lutte. Donc en 75, l'Espagne a quitté l'île de Oro. Et le Maroc a voulu automatiquement s'emparer de l'île d'Oro, alors que cette partie d'Afrique était habitée par un peuple. Et c'est ce peuple qui dit non, nous sommes des lieux de Europe et nous voulons rester là. Et l'Organisation unitaire africaine a reconnu le Polisario dans sa lutte et cela a fâché Hassan II qui a quitté l'Organisation unitaire africaine. Donc lui, Mohamed VI, a senti la nécessité de revenir et de mener la politique africaine. Je pense que c'est une très très bonne idée. Le grand problème maintenant, c'est de dire, s'il veut respecter l'idée de son père, il faut que le Polisario soit exclu.
L'ancien diplomate nigérien Issoufou Bachar, signature dimanche dernier d'un accord d'entente dit déclaration de Niamey entre les deux groupes qui se disputent le contrôle de la ville de Kidal au nord Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA et la plateforme du 14 juin malien. Le dialogue a été conduit sous l'égide du Premier ministre nigérien Brigitte Raffini. Les autorités maliennes n'étaient pas représentées, selon le professeur Jibo Mamoudou, enseignant-chercheur à l'université de Niamey. L'accord est à saluer parce que les deux protagonistes semblent avoir décidé de faire la paix, mais cela ne suffit pas. Le professeur Jibo Mamoudou, micro d'Adama Danwaki.
L'accord, théoriquement, est très bon, il est à saluer parce que tout simplement, il est susceptible de faire taire les armes, il est susceptible de ramener une certaine inquiétude entre les frères maliens qui s'entretuent. Mais cet accord semble aussi créer une situation de fait.
Pourquoi ?
Parce que tout simplement, Kidal est au Mali, que des groupes armés s'entendent pour gérer Kidal en dehors de l'État malien pose un problème. Et si ce protocole d'accord peut s'inscrire dans un cadre global de règlement de la question au Mali, pour que le Mali retrouve son unité, ce serait une bonne chose.
À vous entendre parler, cet accord a des conséquences?
Forcément, parce que c'est des gens qui s'entendent en dehors de l'État malien. L'idéal aurait été que l'État malien reprenne le contrôle de toute la zone, de tout le pays, et que le Niger et les autres pays forcent l'État malien à considérer les autres populations comme étant des populations maliennes à 100% avec tous les droits.
C'était le professeur Jibo Mamoudou, enseignant-chercheur à l'université de Niamey. Je l'annonçais dans les titres, les opérations de déguerpissement pour la construction du troisième échangeur peuvent concerner certaines écoles qui se trouvent aux alentours. C'est le cas de l'école Diori. Écoutons le directeur Ali Moussa Diakité au micro de Habibou Garba.
Bon, notre école sera concernée, mais ce serait à partie. Vous remarquerez à l'intérieur de la cour, des arbres ont été abattus. Vraiment, il y aura une petite réduction donc de notre espace. Mais pratiquement, les bâtiments seront conservés, ne seront pas touchés par l'opération. Donc, pratiquement, c'est une partie de la cour qui sera touchée. Et là, la SATAM, l'entreprise chargée de la construction de l'échangeur, nous a promis donc de reprendre le mur. Nous, selon l'information que nous avons reçue, ce n'est pas donc la ville, mais c'était la SATAM elle-même qui a promis de construire des classes en compensation donc de la partie touchée de notre établissement. Autre que les salles de classe, ils nous ont même promis un bloc administratif, une bibliothèque et une salle de détente.
Les opérations de déguerpissement les commerçants du marché de Katako se trouvant à l'endroit où les travaux de l'échangeur Diori Amani seront effectués continuent aujourd'hui. Les engins de la société qui effectuera ces travaux enlèvent les boutiques concernées par les déguerpissements. Pendant que les commerçants se précipitent pour dégager leurs produits, l'un d'entre eux que nous avons rencontré dénonce cette opération et la qualifie d'une trahison.
Ces gens-là ne nous ont pas rendu les services et nous n'avions jamais cru que ça va arriver comme ça. On donne au moins un délai. On te demande de prendre tes affaires tel jour. Mais ici, on nous donne 10 minutes pour ramasser nos affaires. Il n'y a aucun délai. Ici, nous attendions au moins 2000 personnes et chacun de nous a au moins 30 personnes avec lui. D'autres vont chômer. D'autres ont déjà quitté le pays. On ne nous a pas donné aucune place et aucun dédommagement. Dieu est grand. Sinon, nous n'avons rien à dire.
Propos recueillis par Tanan Foude Ahmad, les enseignants contractuels de l'OSO, soutenus par le secrétaire national et régional du SINASEB de Zender et d'Agadez, étaient en sitting hier matin devant le gouvernorat pour revendiquer le paiement de leur pécule. Notre correspondant à Dosso, Daouda Hassan, était sur place. Reportage.
C'est aux environs de 10 heures que le gouverneur de Dosso, M. Abdoulaye Issa, a reçu les enseignants contractuels qui attendaient depuis 8h30 à la devanture du gouverneur. Le secrétaire régional du SINASEB de Dosso, M. Seybo Adamou, est le premier à prendre la parole devant les autorités administratives et coutumières pour expliquer le pourquoi du sitting de ce matin.
Les camarades qui sont dans des maisons de loyer ont été chassés. Les camarades qui sont dans les brousses ne peuvent même pas se déplacer parce qu'ils ont pris tellement de crédit, ils ne peuvent pas rester. Nous allons rester pour qu'il y ait une solution définitive à cette question.
La présence du secrétaire national du SINASEB et des secrétaires généraux de Zender, Agadez et Difa montre la détermination du SINASEB à étendre ses mouvements sur toute l'étendue du territoire si rien n'est fait. Pour le secrétaire national du SINASEB, ce n'est pas les ressources qui manquent dans le pays, mais les gaspillages et la mauvaise foi des autorités qui sont à la base de cette situation. Le gouverneur de Dosso, M. Abdoulaye Issa, assure les manifestants que les pécules seront payées dans les prochains jours.
Dans les 48 heures, là, Inch'Allah, on va commencer à payer.
La réponse du gouverneur de Dosso ne semble pas convaincre les manifestants. Une discussion entre les autorités administratives et coutumières se poursuit avec les responsables syndicales au gouvernorat. Daouda Hassan depuis Dosso pour les studios Kalangou.
Au Niger, dans la région d'Agadez, la ville d'Arlit abrite depuis une quarantaine d'années deux entreprises extractives de minerais d'uranium, la Somaïr et la Cominac. Entre 2005 et 2009, l'ONG Agriman, en collaboration avec la Crusade et l'entreprise et la GRISIP, Greenpeace ont effectué un contrôle radiologique suite à cette entreprise. Le rapport établi à cet effet a conduit les filiales du groupe Areva à signer un accord entre l'ONG Agriman, la direction des mines et le Centre national de radioprotection pour qu'une opération de plan compteur soit effectuée. À quoi consiste l'opération plan compteur? Gungun Mamandantani a joint par téléphone ce matin Ramar Alatoufette, secrétaire général de l'ONG Agrimen.
Le plan compteur veut dire qu'on vient dans une maison, on fait des mesures avec des appareils de radioactifs. On mesure les sols, on mesure les murs, on mesure les plafonds. On approfondit les mesures pour savoir exactement quel est le degré de contamination. Si ce degré de contamination est susceptible d'enfreindre à la santé humaine, donc il faut entreprendre des opérations de démolissage et de reconstruction de la maison. Nous avons découvert qu'à Arlit, il y a des endroits qui sont radiologiquement contaminés. Les rapports que nous avons établis ont amené les filiales du groupe Areva a signé un accord entre la direction des mines ici, nous autres de l'ONG Agriman et le Centre national de radioprotection pour qu'une opération de plan compteur soit effectuée dans toute la commune d'Arlit.
Propos recueillis par Gungun Mamandantani. C'est l'heure de la partie magazine de ce journal. Le paludisme est une maladie endémique. C'est une maladie qui peut potentiellement être mortelle. Elle est due à un parasite transmis à l'homme par la piqûre de moustique femelle infectée. Selon le docteur Ousseni Ami, pédiatre à l'hôpital régional Poudrière, la saison des pluies est un moment propice pour contracter le paludisme, surtout chez les enfants. Au service de pédiatrie de l'hôpital régional de Poudrière, sur 50 cas de maladie, une quinzaine de patients souffrent du paludisme. Elles étaient nombreuses ce matin dans le couloir du service de pédiatrie de l'hôpital régional Poudrière. Ces mères avec leurs enfants dans les bras, certains pleurant, d'autres endormis. Assises, chacune attendant son tour de consultation. Mais Hadiza Seydou. Elle est prête à faire ses bagages pour rejoindre sa maison. Elle avait passé 2 jours à l'hôpital avec son bébé de 9 mois malade.
Je l'ai trouvé là de la fièvre, comme c'était vers 16 heures, mais c'est dans les environs de 0 heure que ça s'est aggravé. Ce matin que je l'ai amené, il faisait 39 degrés. Il a des maux de tête et la grippe. C'était un paludisme compliqué. Je pensais que j'allais perdre mon enfant.
Ici au Niger, comme dans beaucoup de pays, l'insalubrité est l'une des principales causes du paludisme. Cette maladie présente plusieurs symptômes.
Le paludisme se manifeste par une fièvre, surtout une fièvre qui peut être compliquée au nom de maux de tête, de courbatures, de douleurs musculaires, parfois des signes digestifs à type de nausées, vomissements, diarrhée. Il y a des patients qui peuvent manifester des sueurs avec des tremblements. En cas de paludisme grave, nous pouvons avoir une anémie sévère, des convulsions, des troubles de la conscience qui peuvent aller jusqu'au coma, une détresse respiratoire où les patients peuvent présenter plusieurs saignements. On peut avoir aussi des patients qui viennent, qui disent qu'ils émettent des urines Coca-Cola. C'est ce qu'on appelle une hémoglobinurie.
Hormis ces signes cliniques, il existe d'autres moyens de déceler le paludisme. Exemple, le frottis qui permet de contrôler la présence du parasite dans le sang. Selon Dr Ousseini Ami, il n'existe pas de traitement préventif pour le paludisme chez l'enfant. Seules des précautions doivent être prises pour éviter cette maladie.
Actuellement, il n'y a pas de traitement préventif pour le paludisme. La prévention consiste à avoir un environnement sain, à utiliser des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Parfois, on peut utiliser des répulsifs à moustiques qu'on peut passer sur le corps. Ou le soir, à la tombée de la nuit, surtout chez les enfants, leur mettre des vêtements longs qui les couvrent.
Pour réduire le taux de mortalité du paludisme, le gouvernement doit continuer la distribution de moustiquaires imprégnés, également mettre à disposition des centres des médicaments antipaludéen, souligne la pédiatre Ousseini Ami.
Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, le forum de studio Kalangou, présenté par Mokhtar Amalou.